C'est enregistré.
C'est bon.
Alors, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Ok. Malheureusement, je vais parler en français, dans mon français très italien. Vous écouterez. Je vous demande de m'excuser pour mon français encore trop italien. Mais voilà. Je suis désolée de ne pas voir ici le livre qui devrait sortir en février. La maison d'édition a leur temps, donc on a eu quelques retards, mais je peux vous montrer la maquette du livre qui est déjà prête. Donc voilà, ça c'est la couverture du livre. Il manque le sous-titre qui sera Exorcisme et apparition mariale en Savoie. Mais bon, la couverture est là. Et nous avons ici une note autographe du pape Pie IX qui donne le titre à l'ouvrage, la traduction donne le titre à l'ouvrage. Pazzie et più che pazzie, c'est l'opinion du pape à propos de cette affaire. Donc, une opinion très tranchante, mais voilà. Et nous avons voulu mettre en couverture cette note autographe du pape Pie IX qui se trouve aux archives de Saint-Office, dans le dossier Cancianique d'Office. Donc voilà, ça c'est la maquette du livre. Nous n'avons pas encore le livre, mais bon. Alors, je me suis penchée sur cette affaire qui est une affaire très, très compliquée, mais je la trouve paradigmatique de quelques questions qui interpellent les historiennes tout court et les historiennes de la France notamment. En premier point, la tendance diffusée à l'époque moderne, mais d'une certaine manière jusqu'à aujourd'hui, et pas seulement en Europe, pas seulement dans le christianisme, à utiliser la mystique et l'autorité qui émane du statut du mystique comme outil de communication politique, notamment dans des moments de crise. Excusez-moi, est-ce qu'il y a le point pour...
On
non.
Non, mais...
Montez
le micro.
Ah oui, mettre
au centre.
Ici.
Oui, peut-être.
Bon, alors je ferai. Bon, le deuxième point, c'est que cette affaire illustre très bien, avec ses immenses ramifications, les complexes étroits liens entre politique et religion et surnaturel qui informent l'histoire de la France au XIXe siècle. À partir de la fin du XVIIIe siècle, ce lien politique-religion se noue en France à un discours de la culpabilité et de la repentance, c'est-à-dire l'idée que la France, traditionnellement regardée comme la fille aînée de l'Église, c'est-à-dire favorisée par Dieu, a un péché à expier. Ce péché est évidemment la Révolution française et la mort du roi Louis XVI. Et que tous les malheurs qui l'affligent sont autant de punitions pour ce péché. Dans ce contexte, les milieux catholiques et conservateurs utilisent le surnaturel, en particulier les apparitions de la Vierge, pour légitimer un projet théocratique qui vise la restauration de la monarchie et des valeurs catholiques identifiées à la France d'avant la Révolution, donc la France d'Ancien Régime. Il faut avant tout faire quelques précisions terminologiques. Alors ici, j'utilise la mystique comme l'ensemble des pratiques et des discours liés aux manifestations du surnaturel catholique. La vision, la prophétie, les manifestations physiques du mysticisme, à savoir l'extase et les stigmates, c'est-à-dire les signes de la passion du Christ sur le corps du mystique, blessure à la tête, aux mains, aux pieds, à la poitrine. J'utilise le terme politique en référence aux modalités d'exercice du pouvoir et aux formes de représentation institutionnelle de ce pouvoir. Enfin, on parlera ici d'apparition et pas de vision. Du reste, les protagonistes de l'affaire parlent toujours d'apparition et pas de vision. Alors, la différence entre vision et apparition est en vérité assez difficile à cerner. Mais on s'accorde en général à définir la vision comme une révélation particulière qui concerne exclusivement les récipiendaires alors que l'apparition représente une révélation à la fois particulière et publique dans ses effets et dans ses manifestations. Le véritable destinataire des apparitions est la communauté plutôt que l'individu. Les théologiens utilisent le mot « vision » pour désigner la simple perception d'un objet, alors que le mot « apparition » présuppose la réalité de cet objet. L'affaire que nous allons analyser tourne autour de deux femmes, Canciani Bourdois, assistée par l'abbé Jean-Charles Doré, et Théotiste Covarel, qui a mourir entre 1865 et 1876, sont au centre d'une série d'apparitions mariales et de prophéties. Dans le cas de Canciani Bourdois, il s'agit plus en général d'apparitions de la Vierge, du Christ et des anges, accompagnées de phénomènes de possession diabolique. Le soutien qui lui accorde l'évêque de Maurienne, François-Marie Vibert, entraînera la déposition du prélat en 1876 sous ordre du pape Pie IX. Alors, pour expliquer ce qui se passe, car c'est très compliqué, j'ai organisé ma communication en trois parties. Une première partie avec une introduction visant à mettre en évidence les lieux et les temps de l'affaire, les sources utilisées et la bibliographie. La partie centrale de la communication sera l'exposition des faits. En conclusion, je poserai des jalons pour une analyse des enjeux de l'affaire, du point de vue de l'ecclésiologie, du point de vue d'une histoire régionale et locale, du point de vue de la politique nationale. Je me concentrerai surtout sur le point de vue local et plus en particulier sur les conflits au sein du clergé de Maurienne. Alors, les lieux de l'action. Les faits se déroulent à Maurienne. Depuis la restauration, le nouveau département de la Savoie comprend trois diocèses, l'archidiocèse de Chambéry, les diocèses de Maurienne et de Tarentaise, siège Saint-Jean de Maurienne et siège Moutier, qui sont suffragants de Chambéry. Ici, nous voyons aussi le diocèse d'Annecy, le diocèse de Belley, le diocèse de Genève-Lausanne. Les temps de l'action. Nous sommes dans la décennie 1865-1875. Je fais un petit rappel chronologique parce qu'il s'agit d'une période de l'histoire de la France très, très compliquée. Il y a beaucoup de changements de régime d'un peu d'années. Alors, en 1814, le frère de Louis XVI devient roi de France, Louis XVIII. En 1824, son frère Charles X devient roi de France à son tour. En 1830, abdication de Charles X, Louis-Philippe d'Orléans devient roi de France. Charles X abdique en faveur de son petit-fils, qui est Henri d'Artois, duc de Bordeaux et comte de Chambord. Mais son cousin, Louis-Philippe d'Orléans, avec un coup d'État, prend le pouvoir et se fait nommer roi de France. Et le comte de Chambord part en exil en Angleterre. En 1848, Louis-Philippe est forcé à renoncer au trône et abdique en faveur de son petit-fils, Philippe d'Orléans, comte de Paris. Celui-ci ne devient jamais roi, puisqu'en février 1848, la Deuxième République est instaurée, jusqu'en décembre 1852, lorsque Louis-Napoléon, d'abord président de la République, avec un coup d'État, devient empereur Napoléon III. En 1870, éclate la guerre franco-prussienne. Après la capitulation de Sedan le 2 septembre, est proclamée la République et la constitution du gouvernement de la défense nationale. En mars 1871, autre coup d'État avec la Commune de Paris, jusqu'en mai, lorsqu'Adolphe Thiers devient chef du pouvoir exécutif et puis président de la République. Le 24 mai 1873, Adolphe Thiers est renversé par la majorité monarchique de l'Assemblée. La majorité monarchique de l'Assemblée, ça c'est très important pour les enjeux de l'affaire que nous allons raconter, est formée des légitimistes bourbonistes qui sont réunis autour du comte de Chambord, qui est le petit-fils de Charles X, et légitimistes orléanistes qui soutiennent au contraire les droits du comte de Paris, qui est le petit-fils de Louis-Philippe. Thiers est remplacé par le président MacMahon qui instaure une politique de l'ordre moral inspirée aux valeurs réactionnaires et catholiques. Il y a un échec d'une tentative de restauration monarchique en novembre 1873. Et en 1875, il y a la constitution de la Troisième République. Donc nous sommes entre la première année de l'Empire de Napoléon III jusqu'à 1875, constitution de la Troisième République, après l'échec d'une tentative de restauration monarchique. Plus en particulier en Savoie, la date clé est 1860, comme vous le savez, je crois. Suite à une décision plébiscitaire, la Savoie et le comté de Nice se détachent du royaume de Piémont-Sardaigne et sont annexés à la France. Les sources sur cette affaire, alors les sources inédites, les dossiers de sources inédites que j'ai examinés, se trouvent aux archives nationales. Il y a la correspondance ministérielle, les dossiers de police, la correspondance préfet de la Savoie, procureur général, les dossiers personnels des évêques, les procédures judiciaires. Les dossiers aux archives départementales de Chambéry, il y a la correspondance entre l'évêque de Maurienne et l'archevêque de Chambéry. Il y a les archives de l'asile des aliénés de Bassin, où Théotis Corel et Covarel est enfermé. Les dossiers aux archives du Saint-Office, au Vatican. Il y a les rapports confidentiels des agents du Saint-Office, l'interrogatoire des protagonistes par le commissaire du Saint-Office et aussi la correspondance confidentielle entre le commissaire du Saint-Office et leur informateur au diocèse de Maurienne. Et puis les dossiers aux archives du diocèse de Maurienne, correspondance du clergé local, dossier du clergé, mémoires, pièces judiciaires et documents variés. Je tiens ici à remercier Monseigneur l'évêque qui m'a permis d'examiner ce dossier qui est en effet d'une importance extrême, capitale pour cette affaire. Très important aux archives, désolé que les photos ne sont pas très claires, mais bon, voilà. Très important aux archives du diocèse de Maurienne sont les mémoires manuscrites du chanoine Saturnin Truchet qui représentent le point de vue du clergé local sur l'affaire. L'auteur est curé d'Aigbel et un membre du clergé local rural, pour la plus grande partie hostile à l'évêque, mais il devient ensuite membre du clergé de la cathédrale et supérieur du petit séminaire de Saint-Jean de Maurienne. Il est aussi un membre très actif de la société. J'ai vu qu'il y a aussi plusieurs articles écrits par Saturnin Truchet à la fin.
Il sera président.
Oui. Oui, il a été président, donc c'est un membre très actif. Et les mémoires sont très, très bien écrites. Je dois dire que c'est un très beau texte. Sources imprimées, c'est la presse locale, la presse nationale, les pamphlets polémiques. Et il se trouve à Chambéry, la bibliothèque diocésaine, et aussi en ligne, vous trouvez beaucoup de... La bibliographie... Il y a les travaux d'Hilaire Moulton, qui au début des années 2000 a examiné le dossier aux archives de Saint-Office. Et il a écrit un article très important sur la revue historique. Puis il y a Pierre Daubnier, qui a travaillé sur une partie du dossier aux archives départementales de la Savoie et sur les brochures. Il y a quelques mentions dans un autre article d'Hilaire Moulton, deux autres articles d'Hilaire Moulton, et puis dans quelques articles de Christian Sorel, par exemple dans cet ouvrage « L'anticléricalisme croyant ». Et puis il y a Jacques Mars qui a écrit cet ouvrage très intéressant sur les péchés de la France, sous la tolérance politique au XIXe siècle, qui parle un petit peu de Théotis Covarel, mais vous voyez, c'est seulement deux pages, donc c'est quelques mentions. Les faits sont très compliqués. Alors, les protagonistes de l'affaire sont Cancianille Bourdois, qui est mariée du coup. Elle meurt à Paris après 1895. Nous savons qu'en 1895, elle est encore vivante à Paris. Théotis Covarel, provenant de Foncouverte, elle meurt à Nantes en 1898. Jean-Charles Thoré, l'abbé Jean-Charles Thoré, qui qui meurt probablement en diocèse de Bourges, à Soudoun, mais je n'ai pas trouvé d'informations. Les archives du diocèse de Bourges ne m'ont pas donné d'informations précises. Et puis Jean-Baptiste Portaz, l'abbé Jean-Baptiste Portaz, qui est le chancelier du diocèse, et qui meurt à Paris comme marchand de vin, il devient marchand de vin, donc il est interdit de sacerdoce, il devient marchand de vin à Paris, et il meurt à Paris en 81. En novembre 1865, deux voyageurs se présentent au Vatican et insistent pour obtenir une audience du pape Pie IX. Il s'agit d'une femme âgée d'environ 40 ans, Canciani Bourdois-Nicou, provenant du diocèse d'Auxerre, et d'un jeune prêtre, l'abbé Jean-Charles Toret, chanoine de la cathédrale de Sens. L'audience avec le pontife leur est refusée, mais du 16 au 29 novembre, Canciani et l'abbé Toret adressent 40 lettres au pape, dans lesquelles ils réitèrent leurs demandes, expliquent les raisons qui les ont conduits à Rome. Ici, il y a par exemple une lettre de Canciani, ce n'est pas très clair, mais c'est une lettre de Canciani Bourdois qui est conservée aux archives de Saint-Office. Il y a 40 lettres, 25 de Canciani et les autres lettres de Toret qui expliquent qui écrit ses prophéties, ses souffrances. Comme... La Vierge les a chargés d'une mission de très grande importance. Ils doivent expliquer au pape les secrets des apparitions mariales de la Salette. Petite parenthèse, la Salette fait la voie dans l'Isère et le lieu d'un cycle d'apparitions mariales qui s'ouvre le 19 septembre 1846. Les voyants sont deux jeunes bergères, Mélanie Calva et Maximin Giraud. Au cours des années suivantes, Mélanie Calva s'est dit dépositaire d'un secret révélé par la Vierge. Une première version de ce secret est transmise au pape en 1851, tandis que le texte intégral sera publié en 1879. Canciani et Toret affirment également être appelés à agir pour la ruine du rationalisme et du spiritisme, ainsi que pour la confirmation de tous les dogmes de l'Église afin de régénérer la société par la réforme du clergé. Ce sont les mots de Canciani. Cependant, Canciani et Toret ignorent que Pie IX a déjà été alerté à leur sujet. C'est Mélon Joly, archevêque de Sens et évêque d'Auxerre, qui a envoyé un rapport au commissaire du Saint-Office où il dénonce l'exorcisme pratiqué par l'abbé Toret sur Canciani. Il alerte aussi le pape sur le fait que l'abbé Toret a été interdit dans son diocèse pour sa cohabitation avec Canciani. Il faut remarquer qu'être interdit par l'évêque n'implique pas l'interdiction du sacerdoce, qui revient seulement au pape. Un prêtre interdit par l'évêque ne peut célébrer la messe ni écouter les confessions. Le 3 décembre, le Saint-Office délibère sur l'affaire, en posant le silence et la pénitence à Canciani et à l'abbé Toret de renoncer à ses illusions. L'affaire pourrait se terminer là. Mais nous ne sommes qu'au début, en effet. Canciani et Toret partent de Rome en direction de Paris, où l'année suivante, en 1866, est imprimé un livre signé par Toret, « Rapport merveilleux de Madame Canciani Bourdois avec le monde surnaturel ». C'est un ouvrage en deux tomes, où Toret décrit les exorcismes qu'il a pratiqués sur Canciani, ses visions, ses prophéties, ses visions diaboliques, et après les exorcismes, les visions de la Vierge et des anges. Et en décembre, Toret et Canciani, accompagnés de l'enfant de Canciani, se rendent à Saint-Jean-de-Maurienne, où ils trouvent un puissant protecteur grâce auquel ils entreprennent d'achever leur mission. Canciani se fait passer par la sœur de Toret. Le protecteur est l'évêque de Maurienne, François-Marie Vibert, flanqué par des membres du clergé de la cathédrale et du grand et petit séminaire de Saint-Jean de Maurienne. Notamment, au premier, ici une autre photo de Vibert, au premier plan, il y a le chanoine Joseph Albrieux, supérieur du petit séminaire de Saint-Jean de Maurienne, et prévôt du chapitre de la cathédrale à partir de 1871. Ici, il y a une description de Joseph Andrieux par Saturnin Truchet, dans les mémoires de Saturnin Truchet. C'est le grand mystique, il est possédé de deux passions, celle de son autorité et celle du surnaturel. Saturnin Truchet sera le successeur de Joseph Andrieux comme supérieur du petit séminaire. Depuis de longues années, ses sermons à la cathédrale et ses instructions aux élèves ne sont que des récits de miracles, de visions, de révélations. Il est plus charitable, ayant part à beaucoup d'héritage, il est fort riche. Selon l'évêque Rosset, il est le plus riche de Saint-Jean-de-Maurienne. Mais on pourra mettre dans son épitaphe qu'il a toute sa vie attendu le jugement. Sa grande affaire au petit séminaire est de célébrer beaucoup de fêtes. Tout professeur qui n'a pas sa manie et ne l'encense pas est dans un vrai purgatoire. L'évêque l'en a grande vénération et disait un jour au curé de Chamoux, vous le verrez un jour sur les autels, il a déjà fait des miracles. C'est le seul ami que monsieur Andrieux ait dans le diocèse. Puis il y a les chanoines Célestin Magalion, professeur de théologie au petit séminaire, un autre des grands protagonistes de ces affaires, de l'affaire. Ici, il y a encore Saturnin Truchet qui nous offre une description très vivante de Célestin Magalion. C'est un savant théologien parce que depuis de nombreuses années, il s'est nourri de la lecture de Goethe et de tous les auteurs qui traitent de mysticisme, de spiritisme, d'apparition, de diablerie. Au petit séminaire, il est souvent à couteau tiré avec M. Lebreu, dont il exagère même le tort et qui cependant lui passe bien des choses. Un instant après, il devient son confident et son agent, pas toujours loyal. C'est évident qu'il y a aussi des rancœurs au sein du clergé de Maurienne, donc il ne faut pas croire tout ce que Saturnin Truchet écrit, parce que, évidemment, il y a aussi des rancœurs personnelles, mais en tout cas, c'est intéressant, c'est important de le prendre en compte. Puis il y a surtout le chanoine Jean-Baptiste Portaz, qui est chancelier du diocèse à partir de 1846, et puis devient grand vicaire de l'évêque en 1868. Il y a Joseph-Antoine Bonetti, qui cependant semble une figure un peu secondaire, prévôt du chapitre de la cathédrale et professeur de grammatique au petit séminaire, impliqué dans l'affaire, mais qui reste en tout cas à l'arrière-plan, sont Joseph-Marie Albrieux, qui est le cousin de Joseph Albrieux, chanoine, ancien prieur de l'hospice de Mont-Cenis et ancien curé de Fontcouverte, d'où provient Théotiste Covarel. Et puis Séraphin Perret, supérieur du Grand Séminaire. Ici, il y a la description de Jean-Baptiste Portaz par Saturnin Truchet. C'était un de nos meilleurs prédicateurs. Il était peu exact aux affaires de la chancellerie, confessait trop volontiers le jeune dévot, visitait trop les dames et s'en laissait trop visiter. Oui, voilà, c'est un peu. Il n'avait plus pour concurrent que M. Albrieux, supérieur de petit séminaire, mais il avait jugé prudent de faire alliance avec son rival. Il montrait pour les doctrines et toutes les choses de Rome un enthousiasme parfois exagéré. Monsieur Bonetti, une bonne nature, il lui fallut s'assouplir beaucoup et prendre l'habitude de ne penser qu'après Monsieur Albrieux et Monsieur Magalion, donc c'est une figure un peu secondaire dans l'affaire. Au début, la présence de trois étrangers à Saint-Jean-de-Maurienne, hébergés dans un logement au premier étage du cloître de la cathédrale, ne fait pas trop de bruit. Cependant, des rumeurs commence bientôt à circuler dans la ville, notamment lorsque l'enfant de Cancianil, qui est l'élève du petit séminaire, disparaît subitement. Il est retrouvé à Modane et il dit avoir été enlevé par deux hommes en noir qui voulaient le conduire en Italie, à Rome. Dès lors, c'est un crescendo de voix incontrôlable rapporté dans les mémoires de chanoine Saturnin Truchet. La ville était pleine d'histoires plus ou moins scandaleuses sur le compte des saints du cloître et de leurs courageux et tendres acolytes. On parlait d'abondantes libations d'eau de vie, de 5 à 10 litres par semaine. On disait que cette femme, Cancianille, faisait des révélations, qu'elle retrouverait l'arche d'alliance, qu'elle construirait là une basilique immense et splendide, qu'elle réformerait l'Église catholique. La présence de deux visionnaires commence à inquiéter les autorités de la ville et une grande partie du clergé, notamment le curé de la cathédrale. Elle attise surtout la méfiance de l'archevêque de Chambéry, le cardinal Alexis Billet, prédécesseur de Vibert sur le siège épiscopal de Maurienne. On découvre que Cancianille alterne les révélations divines, soigneusement enregistrées par le chanoine Magalon, aux possessions diaboliques, qui demandent l'intervention en exorciste de Thorel. Parfois, les séances quotidiennes se déroulent en présence de l'évêque. Lors d'une novène à la Vierge qui se tient tous les matins du mois de mai, dans une chapelle de la cathédrale, le scandale éclate. Car tous les fidèles peuvent apercevoir à travers la porte qui donne accès au cloître Cancianille et Thorel qui ne semblent pas cacher la nature de leur relation. C'est toujours Truchet qui raconte. Pour entrer dans le cloître, il faut faire presque le tour de la cathédrale. Le chemin était long. On l'abrégea en traversant tout simplement l'église pour arriver à la porte antérieure, que volontiers on laissait ouverte. Cela se faisait à toute heure. C'était sans doute peu édifiant, mais il y avait une compensation, car les fidèles qui priaient devant les saints sacrements pouvaient sans se déranger entrevoir les promenades sentimentales des Thorel de Cancianille dans les cloîtres. On les vit aussi plusieurs fois s'embrasser aux fenêtres qui donnent sur les jardins. On fait aussi des dessins au crayon, je crois, pris au vif. Ce sont des dessins anonymes qui se trouvent aux archives du diocèse de Maurienne. Ici, il y a la baie Thorel avec Cancianille dans le cloître. Ici, nous avons Cancianille et Thorel avec Magalon à droite, à la fenêtre de leur chambre dans le cloître. Et puis, Magalon, Vibert, Thorel et Cancianille devant la cathédrale. Ce sont des dessins en crayon anonyme, pris au vif, je crois. Le cardinal Billet, archevêque de Chambéry, envoie une copie de l'ouvrage de Thorel à Rome afin qu'il soit examiné par le Saint-Office. Il écrit au pape et demande à Vibert raison de sa conduite. Ici, il y a la lettre un passage de la lettre de dénonciation de Billet qui se trouve aux archives du Saint-Office. Il y a dans cette province ecclésiastique un diocèse où la foi religieuse est gravement troublée depuis 8 mois. Cet ouvrage renferme des grossières erreurs et d'infâmes hérésies. L'évêque de Maurienne aurait dû proscrire ses erreurs, chasser Thorel et Cancianille de son diocèse. Malheureusement, il a fait tout le contraire. Le diocèse en est troublé et bouleversé. L'évêque traite avec beaucoup de rigueur tous ceux qui font de l'opposition à Thorel. L'ancien grand-père, homme honorable et réprochable, a été destitué et même privé du pouvoir d'entendre les confessions dans le diocèse. C'est une persécution. En effet, Vibert a destitué son grand vicaire, qui a rapporté ses perplexités au cardinal, et accuse l'archevêque de Chambéry de répandre des mensonges et de se mêler d'affaires qui ne le regardent point. Ici, une lettre de Vibert au cardinal Billet. Un personnage important disait qu'il vous soupçonnait d'avoir écrit contre moi à Rome. Votre éminence vient d'avouer dans sa dernière lettre qu'il avait raison. Il est évident que vous avez puisé vos renseignements à la source où depuis longtemps vous êtes en usage de l'épouser. Cette source n'est pas bonne, il n'en sort ordinairement que le mensonge. Monsieur l'abbé Thorel réside dans mon diocèse, et par conséquent, il est soumis à ma juridiction. Donc, Vibert refuse que Billet se mêle de l'affaire. À la fin de mai 1867, Cancianille et Thorel entreprennent un nouveau voyage à Rome. Cette fois, ils sont accompagnés de Jean-Baptiste Portaz et de Célestin Magalon. Ils sont porteurs d'une lettre de l'évêque de Maurienne qui sollicite la réhabilitation de Cancianille et de Thorel. En juin, l'évêque part lui-même à Rome où il obtient une audience de Pie IX. Le 21 septembre 1867, la congrégation de l'Index finit par émettre le décret de condamnation du livre de Thoreil. Cela entraîne la réaction indignée de Vibert, qui refuse de publier le décret dans son diocèse. Il écrit au pape protestant que la condamnation est le fruit de l'hostilité de l'archevêque de Chambéry. Si la lettre de un passage de la lettre de Vibert, ce qu'il dit ne repose sur aucune donnée, et d'ailleurs il est habituellement porté à nier les faits de l'ordre surnaturel. Il est allé jusqu'à défendre son clergé d'aller au sanctuaire de la Salette, traitant des fables puériles de l'apparition de la Sainte Vierge. Ça, c'est très important parce que cette accusation à l'égard de Billet de ne pas croire aux apparitions mariales se trouve souvent dans la lettre de Vibert et de ses partisans, parce qu'ils disent qu'en effet Billet avait exprimé des doutes sur les apparitions de la Salette et sur les apparitions de Lourdes, et tout le monde savait en effet que Billet était assez hostile à ce genre de manifestation du mysticisme. L'abbé Thoreil relance également les soupçons de l'évêque à l'encontre du cardinal Billet, qui aurait dépassé les limites de sa juridiction. Voilà par exemple un passage d'une mémoire de l'abbé Thoreil au Saint-Office, dans laquelle nous retrouvons l'antipathie de Monseigneur Billet pour toute intervention surnaturelle et la facilité avec laquelle il traite des faibles ridicules, même les apparitions dont le Saint-Siège autorise la croyance. À quoi donc servent les limites des diocèses si un archevêque peut sortir ainsi du sien pour aller aux environs de ce qui regarde ses collègues? Ces choses ne rentrent pas du titre sous sa juridiction. Les mémoires de Thoreil, accompagnées d'une lettre débordante de Cancianil qui revendique son inspiration divine, il y a un passage de la lettre, au milieu de paroles hallucinées qu'elle déverse sur le papier, c'est une lettre de 13 pages et c'est vraiment bouleversant à lire parce que c'est un délire, vraiment c'est... Nous apprenons que ces révélations concernent aussi la découverte de l'Arche de l'Alliance par les chanoines Célestin Magallon et la convocation d'un nouveau concile présidé par le successeur de Pie IX qui sera Monseigneur Vibert. Thoreil et Portaz sont convoqués par le Saint-Office et interrogés à plusieurs reprises. Thoreil s'engage à se séparer de Cancianil et à ne lui permettre point de rentrer à Maurienne. Mais une fois quitté Rome, il s'enfuit avec elle et Portaz à Genève. À la fin de novembre, nous retrouvons Charles Thoreil retiré à Issoudun, en diocèse de Bourges, chez les missionnaires de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Ici, le 4 décembre 1867, il signe un acte de soumission en retraitant tout ce qu'il a écrit à propos de Cancianil. À partir de ce moment, le jeune prêtre, qui avait été séduit par la révélation de Cancianil Bourdois, disparaît de la scène. C'est Jean-Baptiste Portaz, nouveau grand vicaire de l'évêque de Maurienne, qui assume la relève et qui va prendre en main le sort de la visionnière. Portaz et Cancianil, toujours accompagnés par l'enfant de cette dernière, déménagent à Paris, puis à Bruxelles, enfin en Belgique, à Malines, où ils cherchent la protection de l'archevêque Victor-Auguste Deschamps, admirateur de la stigmatisée Louise Lotot. Ils vivent au frais de l'évêque de Maurienne, qui n'a jamais cessé de leur écrire, et les subventionne en secret. L'obstination de Vibert provoque de nombreuses dissensions au sein du clergé. Plusieurs curés et prêtres du diocèse entarinent les pétitions afin que l'évêque retire son appui à Cancianil et Portaz. Des pamphlets, des chansons circulent à Saint-Jean de Maurienne, faisant passer Cancianil pour la maîtresse non seulement de Thoreil, mais encore de l'évêque de Portaz. Ici, nous voyons par exemple une chanson adressée au pieux enfant de Maurienne qui se trouve aux archives du diocèse. Et puis nous avons par exemple cette chanson qui montre, nous avons ce petit dessin que vous voyez ici. Ce sont Cancianil et Thoreil déguisés en vers qui popule sur le pays. Voilà. Et ce sont très jolis, ce sont aussi des textes d'une certaine valeur, je crois, aussi littéraire. Ce n'est pas, ce sont anonymes, mais l'auteur doit être une personne assez cultivée. Je ne sais pas comment faire disparaître ça. Ah ouais. À son retour en novembre 1869, Vibert est à Rome pour assister aux séances du premier concile du Vatican. Le cardinal Billet, qui est resté en Savoie en raison de son grand âge, il s'est fait représenter par le père Ramière, qui est un jésuite. Le cardinal Billet sollicite des mesures à l'encontre de l'évêque de Maurienne, mais ses lettres demeurent sans réponse. Aux Archives de Saint-Office, nous avons plusieurs lettres de Mgr Billet qui sollicitent une condamnation, une censure des actions de Vibert et qui se plaint que ses lettres demeurent sans réponse. À son retour de Rome, François-Marie Vibert semble adopter une conduite plus prudente. Mais, loin d'éloigner les disciples de Cancianille, il s'obstine à les protéger et à subventionner en secret son ancien grand vicaire Portaz. Sur le front adverse, on mène l'offensive contre Vibert et ses amis. En 1872, est imprimé à Rouen un recueil de 4 lettres aux cancianillistes qui s'en prennent violemment au scandale des mystères du cloître déclenché par les visions des cancianilles de Thoré. L'ouvrage est anonyme, mais tout le monde sait que les auteurs sont le missionnaire diocésain Alexis Bouvier, le chanoine honoraire François Guiguet, professeur de théologie au Grand Séminaire, et l'abbé Charles Richard, prieur de l'hospice de Monseigneur. Au début de l'été 1873, de nouvelles apparitions vont troubler le diocèse. Au cœur de ce tourbillon mystique et visionnaire, sous l'égide de l'évêque Vibert, on retrouve les anciens disciples de Cancianille, dont le chef de file est devenu Joseph Albrieux, le supérieur du petit séminaire. Théotiste Covarel, une tertiaire franciscaine de fond couverte, notons que Joseph-Marie Albrieux, le cousin de Joseph Albrieux, a été curé de Foncouvert et il a fait bâtir une chapelle de famille à Foncouvert. Donc à Foncouvert, il y a la chapelle de famille de la famille d'Albrieux. Théotiste Covarel est un ancien domestique au petit séminaire et maintenant est devenu femme de chambre chez une bourgeoise de Saint-Jean-de-Maurienne. Madame Samboui. En août 1873, Théotiste se mêle à une petite foule en pèlerinage vers la Salette. Soudain, elle s'est dit favorisée d'une apparition de la Vierge, une jeune fille vêtue de blanc et garnie de rose. Plus tard, les apparitions se multiplient dans la chambre de Théotiste. Du 18 août 1873 jusqu'au 2 février 1874, on compte 27 apparitions de la Mère de Jésus, soit en Vierge de douleur, soit en Immaculée Conception, vêtue de bleu, auxquelles s'ajoute le jour de Noël 1873 une apparition de la Sacrée Famille. À l'exception de la première, toutes les apparitions se déroulent dans la chambre des théotistes à 3 heures du matin, tous les vendredis. La voyante entendait d'abord un souffle d'un petit vent produisant un léger bruit. Aussitôt après, apparaissait une vive et abondante clarté qui remplissait toute sa chambre et la Vierge s'est montrée debout à quelque distance de l'endroit où elle était agenouillée. Le but principal des apparitions était de révéler les grands péchés dont le clergé de Maurienne ne cessait de se rendre coupable et d'accuser ceux de ses membres qui n'avaient pas voulu croire aux oracles de Cancianille. Monseigneur Vibert appointe une commission diocésaine présidée par Joseph Albrieux qui rédige un rapport flatteur qui est publié en plusieurs exemplaires et envoyé à tous les prêtres du diocèse. Cela a un effet retentissant. Une grande partie du clergé s'est dit scandalisée et une pétition signée par presque tous les archiprêtres de Maurienne, 120 signatures sur 135 paroisses, et envoyé au Saint-Siège. En 1800, 75, un autre pamphlet anonyme, Les visions de Théotiste Covarel ou une nouvelle extravagance dans le diocèse de Maurienne, en première Rouen, dresse un impitoyable réquisitoire contre Vibert, Théotiste et leur ami. L'évêque condamne la brochure par lettre circulaire et commande à tous les prêtres du diocèse d'en brûler les exemplaires en leur possession. De l'autre côté, l'avocat Benjamin Daimonaz, qui est organiste du chapitre de la cathédrale de Saint-Jean de Maurienne, qui avait déjà pris Cancianil, répond avec un libelle à la gloire de Théotiste intitulé « Lettres d'un croyant à ses amis ». On trouve des exemplaires de ces brochures aux archives du diocèse, mais aussi aux archives du Saint-Office, parce que le Saint-Office s'est fait envoyer ces brochures pour les analyser. En avril 1875, le procureur général de la Savoie dispose d'une enquête médicale sur Théotiste, examinée par le docteur Antoine Motard, le fondateur et président de la Société d'histoire de Maurienne, dont Joseph Albriot est le vice-président. Le 14 juin, sous ordre du préfet, Théotiste Covarel est enfermé à l'asile de Bassein. Sa folie hystérique est jugée dangereuse pour l'ordre public. L'internement de Théotiste Covarel entraîne la réaction indignée de ses protecteurs, mais aussi un conflit entre les autorités préfectorales et la municipalité de Saint-Jean-de-Maurienne. En novembre 1875, puis en avril de l'année suivante, le conseil municipal de Saint-Jean-de-Maurienne s'appelle au Conseil d'État pour s'opposer à un arrêté préfectoral qui lui impose de concourir aux dépenses de l'entretien de Théotiste à l'asile. Le conseil municipal relève qu'il est notoire dans toute la ville que Théotiste Covarel n'avait jamais troublé l'ordre public ni la sûreté des personnes. De son côté, le docteur Motard affirme n'avoir jamais délivré de certificat constatant que Théotiste Covarel fut atteinte de folie et qu'elle n'était point aliénée à l'époque de sa séquestration ni auparavant. Les partisans de Théotiste Covarel s'insurgent publiquement contre sa séquestration. Dans une brochure imprimée à Paris en mai 1876, ayant pour titre la séquestration de Théotiste Covarel et les vols d'un évêché de France en plein 19e siècle, Benjamin Daimonaz présente l'affaire comme le résultat d'un complot organisé par le gouvernement, de concert avec l'archevêque de Chambéry et les autorités administratives de la Savoie, en vue de préparer la suppression de l'évêché de Saint-Jean-de-Maurienne au profit de l'archevêché de Chambéry. Rappelons que le diocèse de Maurienne est en effet menacé de suppression, car selon les lois françaises, à chaque département doit correspondre un seul diocèse. Et en Savoie, il y a trois diocèses. Donc, pour plusieurs années, on parle de supprimer le diocèse de Maurienne et l'attacher à l'archidiocèse de Chambéry. Nous avons ici, par exemple, un passage très efficace, je trouve, de cette brochure de Benjamin Daimonaz. Au nom de la justice et de l'humanité, on demande la délivrance immédiate de Théotiste Covarel. Au nom de l'honneur et de la probité, appelle et fait à tous ceux qui en ont la puissance pour qu'ils s'opposent à l'annexion au vol du diocèse de Saint-Jean-de-Maurienne. L'apparition de la brochure est le fruit d'une stratégie bien concertée et précédée par deux lettres adressées au journal catholique L'Univers et à la République française par l'abbé Célestin Cloquet. Célestin Cloquet vient tout juste de s'imposer comme nouvelle éminence grise aux côtés de l'évêque Vibert, qui, en février 1876, le nomme vicaire du diocèse. Provenant du diocèse de Bourges, interdit par son évêque, il appartient à la congrégation des prêtres de la mission et possède une imprimerie à Paris, où il dirige plusieurs périodiques. Parmi lesquels, par exemple, le libérateur des âmes du purgatoire. Dans ces numéros du libérateur, apparaît un article qui défend Vibert et Théotiste Covarel. À ce point, l'attitude de Rome, jusque-là très prudente et assez indulgente à l'égard de Monseigneur Vibert, devient plus hostile. La raison de l'endurcissement de Saint-Siège ne réside pas exclusivement dans la constatation de la récidivité de Vibert et de ses partisans. Le plus grave est que le chanoine Jean-Baptiste Portaz vient de s'érailler à l'église catholique chrétienne ou église des vieux catholiques, fondée en Suisse en 1871, en dissension avec le Concile du Vatican. Les vieux catholiques refusent notamment d'accepter les dogmes de l'infallibilité du pape proclamé au Concile. Ici, nous avons le presbytère de Delémont dans le Jura suisse, où Portaz s'installe comme curé. Il devient curé vieux catholique de Delémont. Ici, nous avons une caricature du clergé vieux catholique suisse, où nous trouvons probablement le seul portrait de Jean-Baptiste Portaz qui a survécu. C'est ici. Voilà, Portaz Grassi. Et puis il y a Cancianil du coup Portaz Grassi. Cancianil s'est fait passer par la sœur de Portaz. Le 21 mars 1876, les visions de Théotiste Covarel sont censurées par les lettres apostoliques. Le pape ordonne au nouveau archevêque de Chambéry, Monseigneur Pichenot, de signifier à l'évêque de Maurienne que toute juridiction sur son diocèse lui est enlevée et qu'il doit quitter l'évêché dans le délai de 15 jours. Malgré l'injonction du pape, Vibert attend jusqu'en mai avant d'y obtempérer. Vers la fin du mois, il se retire à Yen, son pays natal. Ici, nous avons un passage de... Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Un passage de la lettre de Pigneuf à l'archevêque de Chambéry. Nous avons appelé à Rome l'évêque. Alors, Vibert va à Rome en janvier 1876. Il obtient une audience du pape et puis le pape lui interdit de rentrer à Saint-Jean-de-Maurienne. Mais Vibert, sans, malgré l'interdiction du pape, quitte Rome et rentre à Saint-Jean-de-Maurienne. Et alors Pigneuf, comment dire, un peu en colère avec Vibert. Il vint en effet à Rome et se présenta devant nous. Nous avons ordonné que l'on mit sous ses yeux tous les chefs d'accusation qui pèsent sur lui, en lui défendant de sortir de la ville, avant que le jugement fût rendu dans la congrégation de la Sainte Inquisition. Foulant de pied nos ordres, et sans nous en demander la permission, il s'éloigna inopinément de Rome et il convoqua un synode diocésain. Les choses sont arrivées à ce point qu'ayant déjà dépassé les limites de la patience et de la douceur, nous semblerions tout à fait manquer à notre devoir apostolique si nous nous efforcions de détruire et d'éloigner des âmes exposées à se perdre la plaie d'un si grand scandale. En juin 1876, l'abbé Michel Rosset, professeur au grand séminaire de Chambéry, est nommé administrateur apostolique du diocèse de Maurienne. Rosset retire à Joseph Albrieux et à Célestin Magallon le pouvoir de confesser et de prêcher. Joseph Albrieux est également privé de sa charge de supérieur du petit séminaire. L'état de santé de Vibert empire subitement et François-Marie Vibert meurt à Yen à la fin d'octobre 1876. Écrit Saturnin Truchet, après avoir constamment réfuté sa démission et sans avoir fait aucun acte de rétractation ni de soumission au décret de Saint-Siège. Les disciples de Théotiste ont continué d'entretenir les espérances du retour de Vibert à l'épiscopat de Maurienne et après sa mort, ils cherchent à faire passer l'évêque et la voyante pour démartir de la tyrannie papale. Joseph Albrieux est un des dévots de Marie-Julie Jaigny, une jeune fille du diocèse de Nantes qui, après une série d'apparitions de la Vierge, aurait reçu le stigmate en février 1874. Elle rencontre aussi Théotiste Covarel. Donc on sait que Théotiste Covarel et Marie-Julie Jaigny se sont rencontrés, en effet. Le confesseur de Marie-Julie transmet à l'abbé Cloquet les révélations de la Vierge rapportées par Marie-Julie, notamment celles qui concernent la Maurienne. La Vierge aurait révélé à Marie-Julie que le reste de l'évêque serait bientôt transporté en triomphe à Saint-Jean-de-Maurienne. Je l'ai retiré subitement en le prenant pour victime. Ce sera la gloire de Théotiste la cause de sa délivrance. Après la mort de Vibert, cependant, l'affaire va lentement s'estomper, car le nouveau évêque de Maurienne, Monseigneur Rosset, reçoit ordre de Rome d'effacer tout souvenir du scandale. En janvier 1877, Théotiste est libéré de l'asile de Bassin. Elle se réfugie en Bretagne, chez le comte Michel-Adolphe Pellet de Lautrec, ancien général des armées de François II, de Bourbon, roi des deux Siciles. En 1880, elle rentre à Foncouverte, son village natal, où elle signe un acte de soumission devant le curé et le maire de la ville. Elle y dénonce comme fausse et illusoire toutes les apparitions et révélations dont elle a parlé. L'acte de rétractation est signé par Théotiste. Ici, il y a la signature de Théotiste. Voilà, ici. Cependant, elle part bientôt en Bretagne, rappelée par la comtesse de Lautrec, après un séjour à Rome, où elle souhaite être reçue par le nouveau pape Léon XIII. Théotiste réparait à Saint-Jean-de-Maurienne en novembre 1888, après quoi on perd ses traces jusqu'à sa mort, survenue à Nantes en janvier 1898. Alors, j'ai juste à tirer un peu des conclusions provisoires de cette affaire, en résumant tous les enjeux. D'un point de vue de l'histoire religieuse, il est clair que nous trouvons ici au milieu de celle qui a été appelée la troisième vague mariophanique en France, après celle représentée par les apparitions de la Salette et de Lourdes. Ces apparitions sont marquées par la défaite contre l'Allemagne, la chute de l'Empire, l'échec de la politique de l'ordre moral et de la restauration monarchique en France. Cette vague mariophanique sera la dernière en France et les scandales suscités par l'affaire de Maurienne a sans doute contribué à cloître cette saison d'apparitions mariales. Par exemple, les apparitions mariales au Vivier au printemps 1876, étudiées par Christian Sorel, sont totalement refoulées et ignorées par l'Église. Il est évident aussi, si on analyse de près cette affaire, que les apparitions de Maurienne s'inscrivent dans les milieux ultra-conservateurs catholiques. Les apparitions de Théotiste commencent en août 1873, alors que les chances d'une restauration monarchique sous l'égide de Bourbon semblaient bien réelles. Les monarchiques disposent d'une large majorité dans l'Assemblée nationale et le président MacMahon paraît également favorable au retour du roi. Les bourbonistes et orléanistes ont trouvé un accord autour de la personne du comte de Chambord, qui est le petit-fils de Charles X. Mais la tentative de restauration monarchique échoue en novembre, aussi pour l'attitude ambiguë de MacMahon et du comte de Chambord lui-même. Or, François-Marie Vibert est bien connu par le gouvernement pour ses sympathies légitimistes et bourbonistes. Vibert fait partie de la délégation d'ecclésiastiques savoyards qui, lors de l'annexion à la France, va à Paris pour négocier avec Napoléon III. Les catholiques conservateurs comme Vibert se trouvent bientôt déçus car ils doivent accepter les lois françaises, notamment en matière d'instruction, la création d'écoles d'État qui enlève au clergé le monopole sur l'instruction primaire, la loi sur le mariage civil, la création des sociétés de secours mutuels en concurrence avec les associations charitables catholiques. Il est certain aussi qu'autour de Cancianil et de Théotiste et de François-Marie Vibert, il y a toute une série de relations, un réseau de relations entre les cercles légitimistes et ultra-conservateurs qui s'appuient sur les révélations mystiques et les apparitions mariales. Si nous analysons par exemple la figure de Benjamin Delmonat, c'est l'avocat défenseur de Théotiste et un fervent légitimiste bourboniste partisan du comte de Chambord. Auteur de plusieurs lettres et discours imprimés sur Louis XVI, roi martyr, et sur le retour de Bourbon. Après l'affaire de Maurienne, il trouve refuge à Lyon, foyer du catholicisme apocalyptique, et vers la fin des années 1870, 71, il s'engage activement dans la cause de Charles-Louis Nondorf, qui est l'héritier du prétendant Charles Wilhelm d'Andorff, Louis XVII. Charles Wilhelm d'Andorff est un des prétendants qui se disent le fils de Louis XVI, l'orphelin du Temple, qui aurait survécu à la Révolution. Et Charles-Louis est son fils, et en 1890, Daimonaz épouse la sœur de Charles-Louis, Marie-Antoinette, et change son nom en Daimonaz de Bourbon. Ses derniers ouvrages sont signés Daimonaz de Bourbon. On peut aussi rappeler les liens attestés entre Vibert et Davide Lazzaretti, le prophète du Mont Amiata en Toscane. C'est le fondateur d'une communauté religieuse qui réunit paysans et nostalgiques du Grand-Duché des Habsbourg de Lorraine. Il est tué par la police au pied du Mont Amiata en l'été 1878. Il réside à Saint-Jean-de-Maurienne d'octobre à novembre 1875. Davide Lazzaretti, voilà. Puis il y a l'abbé Célestin Cloquet, qui devient un moment grand vicaire de Monseigneur Vibert, qui est lui aussi un légitimiste convaincu, auteur de plusieurs opuscules sur le thème du péché de la France et sur la sanctification de Louis XVI. Il suffit d'aller dans le site de la Bibliothèque nationale pour trouver tous les ouvrages de Célestin Cloquet, qui est un graphomane parce qu'il y a une vingtaine d'ouvrages de Célestin, d'opuscules signés par Célestin Cloquet. Et puis il y a aussi le lien entre légitimistes, ultra-conservateurs et des milieux occultistes. Par exemple, nous avons ici la figure de l'abbé Joseph Antoine Boulan, qui est c'est une figure très trouble. Il y a douleur avec Joseph Antoine Boulan, en fait. Il est fondateur d'une secte dite œuvre de la réparation. Il est disciple du prophète occultiste Eugène Vintras. Il est plusieurs fois incarcéré, deux fois du moins incarcéré à Paris pour exercice illégal de la médecine et outrage à la morale, escroquerie, parce qu'on le soupçonne de célébrer des rites expiatoires et de soigner les membres de l'œuvre de la réparation avec une mixture d'urine et d'hosties consacrées. Et on découvre aussi qu'il s'adonne à des pratiques érotiques et sadiques sous couvert de mysticisme. L'œuvre de la réparation est fondée par Joseph Antoine Boulan et Adèle Chevalier, qui est une converse belge qui s'est dit guérie de la cécité grâce à la Vierge de la Salette. Aux archives du diocèse de Maurienne, il y a une lettre d'Adèle Chevalier à Joseph Andreu qui demande des reliques de Théotiste Covarel. Et surtout, il est soupçonné du meurtre de l'enfant qu'il a eu d'Adèle Chevalier. Et nous savons en effet qu'en 1868, Joseph Antoine Boulan est convoqué par le Saint-Office à Rome, il est interrogé, et il confesse d'avoir tué l'enfant qu'il a eu avec Adèle Chevalier pendant une cérémonie expiatoire parce qu'il était possédé du démon. Donc il l'a tué. C'est un peu étonnant que le Saint-Office se contente de lui imposer des pénitences et n'insiste pas sur ce crime qu'il a confessé. Nous savons en effet que Boulan fait deux séjours à Saint-Jean-de-Maurienne et qu'il entre en contact avec Théotiste Covarel. Il la visite dans sa chambre. Saturnin Truchet raconte en détail ses séjours dans ses mémoires. Ici, nous avons trois passages. Le premier, c'est du pamphlet « Les visions de Théotiste Covarel ». Les auteurs de pamphlets appellent monsieur l'abbé Boulan l'intime ami, l'apologiste de Monseigneur Vibert et de Monseigneur le Prévôt, qui est Joseph Albrieux. Si vous causez avec lui, il vous prédira d'épouvantables calamités, une persécution sanglante, imminente contre le clergé. Il raconte encore comme quoi il exerce sur le démon un empire absolu. Le deuxième passage, c'est un passage de mémoire de Saturnin Truchet, qui raconte le séjour de Boulang à Saint-Jean-de-Maurienne. Il a fait connaissance du petit séminaire et de l'évêché, et comme d'habitude, on s'y est enthousiasmé pour sa personne. M. Magalon et M. Bonetti me l'ont donné comme un phénomène de science théologique et de vertu. Dans sa visite pastorale, Monseigneur nous en avait parlé de la même manière. Et puis nous avons enfin un passage d'une lettre de l'archevêque de Paris, Monseigneur Guibert, à Saturnin Truchet, qui a écrit à l'archevêque de Paris pour en savoir plus sur Joseph-Antoine Boulang, qui provient de l'archidiocèse de Paris. Et l'archevêque lui écrit « Attention, parce que l'abbé Boulang est un meneur, un maniaque, un habile homme en fait de vision et de révélation. S'il a capté la confiance de Monseigneur Guibert, sa grandeur est en grave péril. » Ici, nous avons une photo de l'abbé Boulang. Enfin, il y a sans doute des tensions au sein du clergé local et entre les deux prélats, entre Billet et Vibert. Si Vibert est un représentant du haut clergé savoyard de tendance outremontaine, c'est-à-dire qui fait exclusivement référence à l'autorité de Rome, le cardinal Billet, archevêque de Chambéry, est de tendance libérale et il est très apprécié par le gouvernement de Napoléon. L'évêque de Maurienne est également un grand défenseur de l'autorité absolue du pape, du dogme de l'infallibilité papale, du dogme de l'Immaculée Conception, certifié par les apparitions mariales de Lourdes, alors que le cardinal Billet est très tiède sur ces points. C'est pourquoi l'ascension de Rome à l'égard de l'évêque de Maurienne tarde beaucoup. C'est seulement après la mort du cardinal Billet et après le ralliement de Jean-Baptiste Portas au schisme de l'Église catholique que Rome intervient pour de bon afin de mettre un terme au scandale. Lorsque Vibert remplace Billet comme évêque de Maurienne, il rédige tout de suite un nouveau texte des exercices spirituels pour le clergé, car il trouve celui adopté par Billet d'esprit janséniste. Jansénisme, c'est un mot passe-partout à l'époque pour désigner tout test catholique de tendance libérale. Il accuse l'archevêque de Chambéry d'être trop indulgent avec le gouvernement impérial, et de ne pas défendre avec assez de vigueur les intérêts de l'Église en matière d'instruction. Les tensions entre les deux prélats sont exacerbées par la menace de suppression qui pèse sur le diocèse de Maurienne, qui pourrait d'un moment à l'autre être annexé à celui de Chambéry. Ces tensions accumulées explosent lors de l'affaire Canciani-Théotiste et nous trouvons des lettres d'une violence extrême adressées par Vibert au cardinal Billet. Par exemple, ces deux lettres. Ici, c'est Vibert qui écrit au cardinal Billet. L'un des crimes les plus grands qui se puisse commettre est celui d'un évêque qui cherche à exciter les prêtres de notre diocèse à la révolte. Ces crimes, vous vous en êtes rendu coupable. Pour les commettre, vous n'avez reculé devant aucun moyen, quelque vile, quelque tortue qu'il fût. Par vos manœuvres indignes, vous avez obtenu et élevé quelques succès. Mais ces succès sont votre plus terrible condamnation. Je vous engage donc, dans vos intérêts les plus chers, à cesser le travail criminel auquel vous vous livrez. Notre lettre. La haine de votre âme et remplie est si violente qu'elle vous fait perdre le sang. Vous dévoilez vous-même, sans vous en apercevoir, votre mauvaise foi et votre perfidie. Vous m'avez attribué des pensées, des sentiments que je n'ai jamais eus et vous m'avez poursuivi de vos calomnies avec un acharnement qui n'a pas d'exemple dans les annales de l'Église. Je vous engage de nouveau à rentrer en vous-même, à sortir de la voie où vous êtes entré, et spécialement à cesser d'exciter les prêtres de mon diocèse à se révolter contre le évêque. Ces lettres se trouvent aux archives de Saint-Office. De plus, nous avons vu alors que François-Marie Vibert, à la différence d'une grande partie du clergé de la Savoie, y compris le haut clergé, est issu d'une famille de la bourgeoisie de Yenne et possède une fortune personnelle considérable, alors que par exemple le cardinal Billet provient de la petite paysannerie de la Haute-Tarentaise. Tous les alliés de l'évêque de Maurienne au sein du clergé proviennent en effet des familles bourgeoises. Joseph Albrieux est pourvu d'une riche fortune. Avec son cousin, le chanoine Joseph-Marie, il est légataire du sénateur Jean-Jacques Anselme, président honoraire de la cour d'appel de Chambéry, décédé en 1864 à Saint-Jean-de-Maurienne. L'héritage s'élève à plus de 240 000 francs de biens mobiliers à Montpellier, et les deux Albrieux craignent à tout moment que l'évêque puisse réclamer une partie de la succession au nom de l'Église. En effet, après le décès de Joseph-Marie Albrieux en 1891, Monseigneur Rosset revendiquera à Séraphin Albrieux, neveu de Joseph Albrieux, sa partie de la succession. Il est hors de doute que la régie des apparitions de Maurienne doit beaucoup à la famille Albrieux. Par exemple, si nous voyons ici, ce sont des renseignements qu'il m'a donné M. Caporizzo, que je remercie. Alors ici, nous voyons une photo prise à la fin du 19e siècle. Alors ici, nous avons la cathédrale, puis le cloître, puis ces bâtiments ici, c'est la ferme Albrieux. C'est une ferme qui est de propriété de Joseph Albrieux et de Joseph-Marie Albrieux. Et puis nous avons ici la maison Saint-Bouis, qui est la maison où se déroulent les apparitions. Et ici le palais épiscopal. La maison Saint-Bouis n'existe plus maintenant, il y a le rond-point, non, je crois. Parce que, ouais, je ne connais très bien la ville, mais je crois que nous sommes plus ou moins... Dans cette autre photo, encore une autre photo, alors la cathédrale, les cloîtres, la ferme Albrieux et la maison Saint-Bouis. La cathédrale cherche à plusieurs reprises de s'annexer la ferme Albrieux. Et le cousin Albrieux et puis Séraphin Albrieux contestent à plusieurs reprises, cherchent à résister à la cathédrale qui veut s'annexer cette ferme. Mon directeur de thèse, Angelo Torre, dirait que Joseph Albrieux est en train de créer un nouveau lieu de culte autour de sa maison. C'est possible, en effet, mais c'est une hypothèse. En conclusion, c'est la thèse déjà de Hilaire Moulton qui se le demandait. L'affaire de Cancianil Théotis cacherait-il, entre autres, les tensions entre l'évêque et un clergé aisé, conservateur et ultramontaniste, d'une part, et un clergé rural et paroissial pauvre et de tendance libérale et gallicane? Ça, c'est une question que je me pose, en effet, que je vous pose. Pour terminer, je vous ai... ici, nous n'avons pas le livre, mais j'ai le plan du livre. Alors, ça, c'est le plan du livre. Après l'introduction de mon collègue Sylvain Milbach, il y aura un premier chapitre sur la description des faits, donc l'affaire, ce qui se passe, donc toute l'histoire de l'affaire, des deux affaires Cancianil Théotiste, puis les différentes explications qu'on pourrait avancer, l'égarement de l'évêque, qui est en effet l'explication qui se donne les autorités du gouvernement, les racines locales, les alliés et les adversaires de François-Marie Ribert, l'attitude de Rome, et au-delà de la Savoie, les aventures de la mystique, donc les liens entre Ribert et David Lazzaretti, Joseph-Antoine Boulan, Benjamin Daimonaz, Giovanni Bosco, une série de liens à étudier. Et puis il y aura une sélection de sources, donc des extraits de l'ouvrage de Jean-Charles Toré et des extraits du rapport de Joseph Albrieux sur les visions de Théotis Covarel, les chansons et libelles contre Cancianil Théotiste, libelles imprimées des partisans de Théotis Covarel. Puis il y aura un article, un très beau article de Musola qui est publié sur La République, sur l'affaire Cancianil, parce que Zola a lu le livre de Toré qui lui est envoyé par Wiseman, parce que Wiseman, nous sommes à l'époque du... Wiseman et Zola ont été amis, puis lorsque Zola publie son ouvrage sur Lourdes, l'amitié entre Wiseman et Zola va en crise, parce que Wiseman est passionné de mysticisme et d'occultisme. Il est le légataire universel de Joseph-Antoine Boulan. Et donc, il y a une... Wiseman écrit sur Canciani dans un de ses romans, et Zola écrit à son tour sur Canciani dans la République française. Puis la correspondance des autorités civiles, c'est le dossier aux archives nationales. L'affaire Canciani Torre arrive à Rome, donc le dossier aux archives de Saint-Office. Puis la lettre entre François-Marie Vibert et Alexis Billet. Puis l'affaire de Théotiste Covarel, correspondance des autorités civiles, enquête médicale. Et puis la correspondance de l'évêque de Maurienne, disciple de Canciani le Théotiste, donc des lettres de Jean-Baptiste Portaz, des lettres de Joseph Albreu, des lettres d'Adèle Chevalier, etc. Avec cela, je crois que je peux terminer. Je vous remercie pour votre patience.